7. Histoire d'un omnibus, d'une mauresque et d'un chapelet de fleurs de jasmin. Cette dernière aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens, mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. « Les lions sont dans le sud, » pensa le héros. « Eh bien, j'irai dans le sud. » Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné Noirot et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses malles et de partir le jour même pour le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière, l'attentat bruyait d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville, et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon! Combien il aurait mieux fait pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route, au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère, de la tente abri et de ses lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond, le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger à grande barbe noire. En face, un jeune marchand maure qui fumait de grosses cigarettes. Puis un matelot maltais et quatre ou cinq mauresques masqués de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abdelkader, mais cette vision funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre elles sous leurs masques en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elles le regardaient beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce grand œil noir, allongé par le col, un poignet délicieux et fin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles, tout le son de la voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disaient qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux Tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire? Répondre à ce regard, à cette pression? Oui, mais les conséquences. Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave Tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques, décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer, sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège, et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui, comme deux fleurs de velours noir, en ayant l'air de dire « Accueille-nous !» L'omnibus s'arrêta, on était sur la place du théâtre, à l'entrée de la rue Badazoun. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles avec une grâce sauvage, les mauresques descendirent, la voisine de Tartarin se leva la dernière, et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il effleura son haleine. Un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le Tarasconnais n'y résiste pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élance derrière la mauresque. Au bruit de ses buffleteries, elle se retourna, mit un doigt sur son masque comme pour dire « Chut !» et vivement de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé fait avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armure, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la mauresque avait disparu. 8. Lion de l'Atlas dormait. Lion de l'Atlas dormait, dormait tranquille au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Carascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisse d'armes, pharmacie, tentes abris, conserves alimentaires, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe, dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peine, grand lion roux. Le Tarasconnais cherche sa mauresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied, sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge. Et la brise de mer, en effleurant ses lèvres, se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa maugrabine. Mais c'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de 100 000 âmes une personne dont on ne connaît que la laine, les pantoufles et la couleur des yeux. Il n'y a qu'un Tarasconnais féru d'amour capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que sous leurs grands masques blancs, toutes les mauresques se ressemblent. Puis ces dames ne sortent guère, et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arable, la ville des teurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires, très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses, dont les toitures se rejoignent et font tunnel. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres, où les teurs farouches, à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parlent à voix basse, comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre Tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ces ruelles obscures dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver. Tout à fait comme à Tarascon, en allant au cercle. À chaque instant, il s'entendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade d'eunuques et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. 8 jours durant, l'intrépide Tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt, on le voyait faire le pied de grue devant les bains-maures, attendant l'heure où ces dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt, il apparaissait, accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitare, des roulements de tambour, et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là !» se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ses maisons, levait le lourd marteau de la goutte poterne basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. « Tenons-nous bien, » pensait le héros, « il va m'arriver quelque chose. » Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des peaux d'orange et le figue de Barbarie. Jamais rien de plus grave. Lion de l'Atlas dormait. 9. Le prince Grégory du Monténégro. Il y avait 2 grandes semaines que l'infortuné Tartarin cherchait sa dame algérienne, et très vraisemblablement, il la rechercherait encore, si la providence des amants n'était venue à son aide sous les traits d'un gentilhomme monténégrin. Voici. En hiver, toutes les nuits de samedi, le grand théâtre d'Alger donne son bal masqué, ni plus ni moins que l'opéra. C'est l'éternel et insipide bal masqué de province, peu de monde dans la salle, quelques épaves de Bullier ou du casino, vierges folles suivant l'armée, chicards fanés, débardeurs en déroute, et 5 ou 6 petites blanchisseuses mahonnaises qui se lancent mais gardent de leur temps de vertu un vague parfum d'ail et de sauce safranée. Le vrai coup d'œil n'est pas là. Il est au foyer, transformé par la circonstance en salon de jeu. Une foule fiévreuse et bariolée s'y bouscule autour des longs tapis verts. Des turcos en permission misant les gros sous du prêt, des maures marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait 40 lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'une couple de bœufs. Tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont des tribus de juifs algériens jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupée autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, après le long conciliabule, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le doux rang familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement d'yeux hébraïque tourné vers la table, terribles yeux des mains noires qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement comme par un fil. Puis des querelles, des batailles, des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix du cœur. Le héros s'en allait seul dans la foule, pensant à sa mauresque, quand parmi les cris, tout à coup, à une table de jeu, par-dessus le bruit de l'or, 2 voix irritées s'élevèrent. Mais je vous dis qu'il me manque 20 francs, monsieur. Oh, monsieur. Après, monsieur. Apprenez à qui vous parlez, monsieur. Je ne demande pas mieux, monsieur. Je suis le prince Grégory du Monténégro, monsieur. Ah, ce nom. Tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fier de retrouver son prince, ce prince monténégrin, si poli, dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse qui avait tant ébloui le bon Tarasconnais ne produisit pas la moindre impression sur l'officier de chasseur avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé !» fit le militaire en ricanant, puis se tournant vers la galerie. « Grégory du Monténégro, qui connaît ça? Personne ?» Tartarin, indigné, fit un pas en avant. « Pardon ? Je connais le prince, » dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier de chasseur le regarda un moment bien en face, puis levant les épaules, « Alors, c'est bon, partagez-vous les 20 francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougueux Tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire. » Et, prenant le Tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros, et, se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante « Monsieur Barbarin, Tartarin !» souffla l'autre timidement. « Tartarin, Barbarin, enfin n'importe. Entre nous maintenant, c'est à la vie et à la mort. » Et le noble Monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. « Vous pensez, si le Tarasconnais était fier ?» « Prince, prince !» répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces deux messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit, dont les terrasses plongent sur la mer, et là, devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crescia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince monténégrin. Mince, fin, les cheveux crépus, frisés au petit fer, rasés à la pierre ponce, constellés d'ordre bizarre, il avait l'œil futé, le geste câlin, et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache. Très ferré d'ailleurs sur les langues latines, et citant à tout propos Tacite, Horace et les commentaires. De vieille race héréditaire, ses frères l'avaient, paraît-il, exilé dès l'âge de 10 ans à cause de ses opinions libérales, et depuis, il courait le monde pour son instruction et son plaisir en altesse philosophe. Coïncidence singulière, le prince avait passé 3 ans à Tarascon, et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, « Oh, je sortais peu !» fit l'altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, ne va pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en sirotant le vin rosé de Crescia, il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque. Et même il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps, on trinqua aux dames d'Alger et au Monténégro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait et les vagues dans l'ombre battaient la rive avec un bruit de draps mouillés qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Ce fut Tartarin qui paya la note. 10. Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. Parlez-moi des princes monténégrins pour lever lestement la caille. Le lendemain de cette soirée aux Platanes, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Allez vite, vite habillez-vous, votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baïa, 20 ans, jolie comme un cœur et déjà veuve. »« Veuve, quelle chance !» fit joyeusement le brave Tartarin qui se méfiait des maris d'Orient. Oui, mais très surveillé par son frère. Ah, diantre! Un maure farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. Ici, un silence. Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis on viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons vite, allez, habillez-vous, heureux coquin. Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit et boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écrire à la dame, tout simplement, et lui demander un rendez-vous. Elle sait donc le français? Fit d'un air désappointé le naïf Tartarin qui rêvait d'Orient sans mélange. Ah non, c'est pas un mot, répondit le prince imperturbablement, mais vous allez me dicter la lettre et je la traduirai à mesure. Ô prince, que de bonté! Et le Tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre, silencieux et se recueillant. Vous pensez que on n'écrit pas à une mauresque d'Alger comme à une grisette de Beaucaire? Fort heureusement que notre héros avait par-devers lui ses nombreuses lectures qui lui permit, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave Aimard avec le voyage en Orient de Lamartine et quelques lointaines réminiscences du Cantique des Cantiques, de composer la lettre la plus orientale qu'il se pût voir. Cela commençait par comme l'autruche dans les sables, et finissait par dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. À cet endroit, le romanesque Tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques à la mode orientale, mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur et ferait certainement très grand plaisir à la dame, qui fumait beaucoup. Ah, allons vite acheter des pipes, fit Tartarin plein d'ardeur. Non, 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 laissez-moi y aller seul. Je les aurai à meilleur compte. Comment vous voulez, ô prince, prince? Et le brave homme, tout confus, tendit sa bourse à l'obligeant Monténégrin, en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touchée, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin, et du reste aux trois quarts séduite par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules, et pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des grosses, des cargaisons de pipes. Mais qu'est-ce que diable Baïa peut faire de toutes ces pipes? Se demandait parfois le pauvre Tartarin, mais il paya quand même et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et deux ou trois revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La dame habitait dans le haut de la ville. Devant sa porte, un jeune maure de 13 à 14 ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les deux visiteurs, il frappa deux coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoutée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la mauresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie ainsi, avec ses pieds nus, ses doigts grassouillets et chargés de bagues, roses, fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le tuyau d'ambre d'un narguilé fumait à ses lèvres et l'enveloppait toute d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le Tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus mauresquement possible en roulant de gros yeux passionnés. Baïa le regarda un moment sans rien dire, puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc, qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles. 11. Sidi Tarta ben Tarta. Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les maures causer entre eux, avec des clignements d'yeux et de petits rires, d'un certain Sidi Tartri ben Tartri, européen aimable et riche, qui voici quelques années déjà vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le Sidi Tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la Casbah, n'est autre, on le devine, que notre Tartarin. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros, des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillances. L'illustre Tarasconnais n'en fut pas plus exempt qu'un autre, et c'est pourquoi, 2 mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit, comme Hannibal à Capoue, dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville, arabe, une jolie maisonnette indigène, avec cour intérieure, bananiers, galeries fraîches et fontaines. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque, maure lui-même de la tête aux pieds, soufflant tout le jour dans son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre, en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français, ni Tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard Tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuguet ou chez l'armurier Costecalde. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme, et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait, à rester là tout le jour sans parler, en écoutant le glouglou du narguilé, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilé, le bain, l'amour remplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois, Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne, avec ses zouaves en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabre traînant sous les arcades. Cet Alger-là lui semblait insupportable et laide comme un corps de garde d'Occident. En somme, le Tarasconnais était très heureux. Tartari Sancho, surtout, très friand de pâtisserie turque, se déclarait on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence. Tartarin Quichotte, lui, avait bien par-ci par-là quelques remords en pensant à Tarascon et aux peaux promises. Mais cela ne durait pas, et pour chasser ses tristes idées, il suffisait d'un regard de Baïa ou d'une cuillerée de ces diaboliques confitures odorantes et troublantes comme les breuvages de Circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, au besoin même celles d'intendant, et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartara ne recevait que des teurs. Tous ces forbans à tête farouche, qui naguère lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes, se trouvèrent être, une fois qu'il les connut, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous gens bien élevés, humbles, finaux, discrets et de première force à la bouillotte. Quatre ou cinq fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Sidi Tartri, lui gagnaient son argent, lui mangeaient ses confitures, et sur le coup de 10 heures se retiraient discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Sidi Tartri et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur la terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toit à la maison et dominait la ville. Tout autour, un millier d'autres terrasses blanches, aussi tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel, et sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muezzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt, Baïa lâchait sa guitare et ses grands yeux tournés vers le muezzin semblaient boire la prière avec délice. Tant que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait prier et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de foi pareille. Tarascon, voile-toi la face, ton Tartarin songeait à se faire renégat.